France Inter.
Bonsoir à tous. Une journée nationale de commémoration pour Alfred Dreyfus. Ce sera chaque année le 12 juillet. Accusé à tort de trahison, victime de l'antisémitisme, il avait été réhabilité justement le 12 juillet 1906. Explication et réaction de l'historien Vincent Duclerc. Dès le début de ce journal, un accord historique pour la Nouvelle-Calédonie. On vous explique comment indépendantistes et loyalistes ont réussi à se mettre d'accord. 30%, c'est le nouveau chiffre de taxes douanières brandi aujourd'hui par Donald Trump dès le 1er août pour tous les produits importés d'Europe. Nous serons à Bruxelles. Nous serons également en Catalogne en alerte rouge aux orages. Et en France, les orages, ce sera pour plus tard. C'est un temps calme et sec demain matin, Magali Rochereau.
Oui, Corinne, sous des températures stationnaires, mais la situation va évoluer vers l'orage dans l'Est l'après-midi.
Prévision complète à la fin de ce journal. Dans l'actualité sportive, la victoire écrasante d'Iga Świątek à Wimbledon. Et une huitième étape tranquille sous la chaleur au Tour de France, remportée par l'Italien Jonathan Milan. Nous serons sur la route des tours à la toute fin de ce journal.
France Inter.
Soldats, on dégrade un innocent. L'histoire a retenu ces mots d'Alfred Dreyfus, victime d'une machination antisémite. Il avait été condamné à tort pour trahison. Ses insignes militaires arrachés dans la cour de l'école militaire à Paris, avant de voir son innocence enfin reconnue le 12 juillet 1906. Et c'est cette date du 12 juillet qu'a choisi Emmanuel Macron pour commémorer la réhabilitation du capitaine Dreyfus au nom, Erwan Chassin, de la lutte contre l'injustice et l'antisémitisme.
Ainsi, Dreyfus et ceux qui ont combattu à travers lui pour la liberté, l'égalité et la fraternité continueront d'inspirer notre conduite, écrit le président de la République. La première cérémonie nationale aura donc lieu l'an prochain pour le 120e anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus. Par cette démarche, Emmanuel Macron appelle à toujours rester vigilant contre les vieux démons engendrés par la haine, dit-il. Alors que selon le ministère de l'Intérieur, plus de 500 actes antisémites ont été recensés depuis janvier. Le chef de l'État écarte donc pour l'instant une panthéonisation, mais il salue un héros démocratique. L'Assemblée nationale a d'ailleurs voté le mois dernier l'élévation posthume au grade de général de brigade, Alfred Dreyfus. En 2006 déjà, Jacques Chirac avait lui ouvert la voie à la reconnaissance nationale avec une cérémonie à l'école militaire, là où le soldat avait été publiquement dégradé en 1895.
Erwan Chassin et puis l'historien Vincent Duclerc, grand spécialiste de l'affaire Dreyfus, salue le geste d'Emmanuel Macron.
Ce qui est important, c'est la cérémonie nationale. C'est-à-dire que chaque année, on va pouvoir expliquer aux jeunes, expliquer aux citoyens, aux Français, au monde, que Dreyfus a été l'artisan de cette victoire de la justice. Et donc, on peut imaginer beaucoup de choses dans cette cérémonie nationale, vous voyez. Et je crois qu'on a là quand même une histoire vivante. Et ça, c'est très important. Moi, je me félicite de ce qui vient d'être annoncé. C'était inattendu, mais en fait, c'est très réussi, quoi. Et il faut reconnaître à nouveau au président de la République cette volonté de reconnaître publiquement les vérités historiques. On va avoir, si vous voulez, un panthéon permanent, c'est-à-dire que chaque année, comme pour le Vel'd'Hiv, on rappellera au fond les grandes valeurs françaises et la nécessité de les défendre.
Vincent Duclerc, interrogé sur France Info. Et pour aller plus loin, on ne saurait que trop vous conseiller le podcast de Philippe Collin, Alfred Dreyfus, le combat de la République. 10 épisodes disponibles sur l'appli Radio France. Un état de Nouvelle-Calédonie, c'est ce que prévoit l'accord signé à l'aube près de Paris par des représentants des indépendantistes et des loyalistes, qualifié d'historique par le chef de l'État qui a reçu les négociateurs à l'Élysée. Cet accord crée un nouveau statut pour la collectivité d'outre-mer, tout en restant au sein de la République française. Alors le projet doit encore être entériné par le Congrès et la population calédonienne, mais c'est d'ores et déjà une avancée majeure. L'accord prévoit aussi de régler la question du dégel du corps électoral, dégel contesté par les indépendantistes kanaks qui craignaient de devenir minoritaires. Il sera mis en place de façon progressive. Virginie Rufnak, de la délégation Loyaliste Rassemblement.
Nous atterrissons sur un accord où les Calédoniens sont français, où la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République française, où finalement nous avançons sur ces enjeux démocratiques que l'ouverture du corps électoral, qui est une absolue nécessité. Nous avons consenti à ce qu'il y ait, côté de la nationalité française qui persiste, une nationalité calédonienne, nationalité française et calédonienne étant indissociables l'une de l'autre, et puis surtout il n'y aura plus de référendum.
Ces dernières années, 3 référendums sur l'indépendance avaient en effet acté le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, sans pour autant apaiser les tensions. Cette fois, chacun a fait un pas vers l'autre. Salut Victor Toutougoro, membre de la délégation indépendantiste Uni Palika.
Les uns et les autres ont su faire, comme on dit, le pari sur l'intelligence. Au-delà de nos positionnements politiques et de nos postures, on est arrivé à mettre toutes ces choses de côté pour le bien du pays, le bien de la Nouvelle-Calédonie, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. C'est une manière de projeter devant nous et donc d'aider à la reprise de l'économie du pays.
Un propos recueilli par Nouvelle-Calédonie, la première. Le feuilleton des droits de douane continue. Donald Trump annonce une taxe de 30% sur tous les produits importés depuis l'Union européenne. Et ce, dès le 1er août prochain. La nouvelle fait l'effet d'une douche froide à Bruxelles. Ces dernières heures, la Commission européenne espérait encore parvenir à un accord commercial avec les États-Unis. Correspondance à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
L'annonce du jour donne donc l'impression à Bruxelles d'un retour au point de départ, mais en pire. Après avoir menacé l'UE de droits de douane à 20% en avril dernier, avant de se raviser et d'entamer des négociations, Donald Trump parle maintenant d'un tarif de 30%, soit 10% de plus, et ce, après plusieurs semaines de difficiles négociations avec l'Union européenne. Alors que va faire celle-ci ? Dans un communiqué, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, critique la mise en place de ces droits de douane, mais laisse encore une place pour un compromis. Nous restons prêts à poursuivre le travail vers un accord d'ici le 1er août, écrit-elle. Elle évoque aussi la possibilité de mesures de rétorsion si nécessaire, dit-elle, des contre-mesures protectionnistes qualifiées de proportionnées. Des mots beaucoup plus pesés que ceux du président américain qui, lui, menace déjà d'augmenter à nouveau ses droits de douane s'il prenait envie à l'Union européenne de riposter sur le terrain tarifaire. Difficile de ne pas voir une tactique de négociation dans ces menaces d'escalade vers une guerre commerciale contre son premier partenaire économique, avec toujours le même but, parvenir à un deal et boucler un accord à l'avantage des USA dans les 15 jours à venir.
Jean-Jacques Herry, alerte rouge aux orages en Catalogne. Dans le nord-est de l'Espagne, on attend des pluies torrentielles. Le trafic ferroviaire est interrompu dans toute la région. Correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
L'alerte est de niveau 6, le plus haut des échelons. Des millions de téléphones portables en Catalogne ont reçu un message d'alerte émis par la protection civile. Risque d'inondation dû à des pluies torrentielles jusqu'à 21h, indique le SMS. Évitez les déplacements et activités à l'extérieur. Ne vous rapprochez pas des cours d'eau et des zones inondables. Évitez les sous-sols. Si l'eau rentre, montez aux étages supérieurs. Fin de citation. Selon l'agence météo espagnole AEMET, 90 litres d'eau par mètre carré pourraient tomber en une heure de temps près de Barcelone et dans la province de Tarragone. Sur les réseaux sociaux, on voit déjà les premiers effets des précipitations. Dans la commune d'Igualada, par exemple, 60 km au nord-ouest de Barcelone, un torrent se déverse dans une rue où l'on voit au loin une voiture emportée par la force de l'eau. Renfe, la compagnie nationale des trains, a suspendu l'ensemble des services régionaux en Catalogne. Sont également annulés jusqu'à 21h tous les départs de Barcelone et de Valence, la région déjà sinistrée fin octobre par des inondations historiques. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Et de l'autre côté de la frontière, les Pyrénées-Orientales, qui sont elles en vigilance orange aux orages, sont sous l'eau. La feria de Céré, dans le sud du département, est annulée. Et selon la préfecture, il n'y a pour l'heure aucune situation préoccupante pour les secours à la personne. Du mieux sur les routes demain, après un pic de 1000 km de bouchons à la mi-journée, en raison des départs et des retours de vacances, demain est classé vert par Bison Futé. Ils rejoignent le Taj Mahal, le Machu Picchu ou encore le Colisée. Les menhirs de Karnak entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO, un label prestigieux officiellement décerné cet après-midi pour ces alignements de pierres de toute taille qui datent du néolithique et dont on ignore toujours la signification. À Karnak, en Bretagne, la nouvelle est accueillie avec joie par ceux qui ont porté le projet. Et quant à l'afflux de touristes que pourrait déclencher cette reconnaissance, pas de panique, tout est déjà prévu, assure Victoire Dorise. Elle dirige l'association Paysages de Mégalithes.
Ça va, à mon avis, sur le long terme, pas changer grand-chose, puisque on se met en ordre de marche pour que ça ne change pas grand-chose. Mais on espère quand même que les gens iront voir d'autres sites, peut-être un petit peu plus confidentiels, qu'il y a sur le reste du territoire. Et cette diffusion des flux, elle est fondamentale, et ça, c'est un objectif en soi. Une fréquentation trop importante peut éventuellement, parmi d'autres sujets, engendrer un risque sur les mégalithes. Et aujourd'hui, tous les sites du territoire qui ont une billetterie et qui accueillent du tourisme sont extrêmement bien encadrés, et ce qui fait que ça en fait des sites qui sont complètement en capacité d'absorber les éventuels flux supplémentaires qui viendraient cet été.
Propos recueillis par Erwan Chassin. Et l'illégalité ne les a pas découragés. 9000 personnes ont participé aujourd'hui à la rave party qui a commencé vendredi en Lozère. Elle se poursuit jusqu'à lundi soir. Plusieurs routes ont été fermées pour limiter l'accès au lieu. Aucun incident particulier n'a été relevé, même si le risque d'incendie reste élevé. Le code de la route, si on a son permis, a priori on le connaît, mais celui de la mer, c'est moins évident quand on est un navigateur occasionnel. Nombre de gilets sauvetage, extincteurs, papier du bateau. Les règles de sécurité sont strictes. Alors pour les rappeler à tous, les gendarmes maritimes patrouillent, comme ici au large du Calvados, pour une opération de contrôle et de prévention. Gabriel Grécourt était à bord.
Au large d'Oulgate, les bateaux de plaisance sont de sortie sous le soleil. Le Zodiac des gendarmes s'approche de l'un d'entre eux.
Pas de permis, s'il vous plaît, et les papiers du bateau.
Ouais, super.
Allez, on va faire l'armement de sécurité. Un extincteur, s'il vous plaît. Vous êtes deux, oui. Deux gilets de sauvetage.
Marc est adjudant à la gendarmerie maritime. Il vérifie tous les équipements de sécurité.
Tout était correct au niveau de l'armement de sécurité. Juste une petite curte, ils pensaient avoir des gilets de sauvetage aux normes et malheureusement, le système de déclenchement n'était pas à jour.
Pour d'autres bateaux, il manque plus de choses. René vient de se faire contrôler.
Il manque un extincteur à la date, il me semblait l'avoir, mais bon, il n'est pas là. Il manque un double coupe-circuit, et là, je n'étais pas du tout au courant. Et le bout de manquage qui, d'après la gendarmerie, trop court.
Conséquence, le vacancier doit rentrer au port, mais il repart sans contravention car cette journée est à visée uniquement pédagogique, explique Mathilde, autre gendarme à bord du Zodiac.
Les directives, c'était pas de répression, c'est vraiment à titre pédagogique. Ça leur fait des piqûres de rappel pour qu'ils se remettent, qu'ils aient le matériel qu'il faut pour partir en mer en toute sécurité en fait.
Une opération prévention que les gendarmes mènent aussi auprès des personnes à bord de kayak ou de jet ski.
Reportage Gabriel Grécourt. Pour ici Normandie Caen.
France Inter, Corinne Audouin.
La page sportive de ce journal maintenant, moins d'une heure de jeu. C'est ce qu'il a fallu à Iga Świątek pour remporter son premier tournoi de Wimbledon avec un score sans appel 6-0, 6-0. La quatrième joueuse de tennis mondial n'a fait qu'une bouchée de l'américaine Amanda Anisimova, dont c'était la première finale en grand chelem. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Un tel score en finale, ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps à Wimbledon.
Bah, ça n'est jamais arrivé, tout simplement. 6-0, 6-0 en 57 minutes, ce n'est pas la finale dames la plus rapide de l'histoire à Wimbledon, mais c'est la première fois sur le gazon londonien qu'une finale s'achève sans que la perdante n'inscrive le moindre jeu. Alors Iga Świątek s'est imposée sans forcer, vous l'avez compris, hein, dans un match à sens unique. Amanda Anisimova était en panique sur le court, elle a vécu un véritable calvaire, un véritable cauchemar. À 23 ans, l'américaine, on le sait, hein, vous l'avez dit, disputait sa première finale en grand chelem, mais elle a été rattrapée par les émotions. Amanda Anisimova a craqué, incapable de gérer la pression et le poids de l'enjeu. L'américaine n'a jamais réussi à se libérer, à lâcher ses coups en pleine confiance. Alors les jeux se sont enchaînés, les fautes directes aussi, 28 au total contre 11 seulement à Iga Świątek. La polonaise a joué en toute sérénité cette finale, se contentant en fait d'attendre les fautes de son adversaire. Et c'est sans trembler qu'Iga Świątek a remporté le 23e titre de sa carrière, le premier à Wimbledon pour sa toute première finale sur le gazon londonien. C'est aussi le 6e grand chelem pour Iga Świątek en autant de finales disputées. Elle dépasse en nombre de titres majeurs Maria Sharapova et Martina Hingis.
Merci Fabrice Abgral. On rappelle l'affiche de la finale. Messieurs, demain, Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz, c'est-à-dire les numéros 1 et 2 mondiaux. Et puis, c'est une jolie victoire au sprint pour l'Italie au Tour de France. Jonathan Milan remporte la 8e étape de la Grande Boucle. Première victoire d'étape italienne depuis 6 ans. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir.
Et c'est également la première victoire tout court pour ce jeune homme.
Oui, sur le tour, l'homme flashé à plus de 75 km/h lors d'un sprint sur le Giro, présenté comme la nouvelle pépite de la discipline. 24 ans, Jonathan Milan, physique de déménageur, 1m93, 84 kg, ça se voit sur le vélo et ça fait des dégâts lorsqu'il s'agit de s'imposer. 4 victoires hein, déjà sur le Tour d'Italie, mais c'est vrai, jamais sur la grande boucle. Pour sa première sur le Tour, il a une étiquette de favori pour ses arrivées ultra rapides et son compteur s'est donc ouvert aujourd'hui à Laval.
Je crois que je ne réalise toujours pas ce qu'on a fait. On est venu sur le tour avec beaucoup d'attentes et beaucoup de rêves à ramener à la maison. Mais entre rêver et le faire, ce sont deux choses vraiment très différentes. Je suis très content du travail qu'on a fait aujourd'hui. Je suis très fier. Johnny Power, c'est son surnom et sa gueule d'ange sur le podium avec le maillot vert. C'est aussi un soulagement pour toute l'Italie. Vous l'avez dit, 6 ans qu'un Italien n'avait plus gagné sur le Tour. Mais cela n'étonne pas le Français Anthony Turgis, qu'il a croisé il y a quelques semaines en stage.
On était en même temps que lui en Sierra Nevada. On voyait très bien qu'il faisait des gros sprints avec son équipe, donc il venait vraiment spécialement pour ça. C'est sûr qu'il tient bien. Il est peut-être le plus rapide pour les sprints. Après, voilà, on n'a pas eu encore de montagne. Donc la tendance, on sait que ça peut vite changer à partir de là. Donc on va voir comment il passe l'école et si ça l'épuise un peu plus, ça peut rééquilibrer le niveau du sprint.
Avant de voir s'il passe la montagne, Jonathan Milan aura une nouvelle occasion demain d'enfoncer le clou chez les sprinteurs. Quant au peloton, il a passé une journée tranquille en Ille-et-Vilaine et en Mayenne, journée de récupération avec donc aucun changement au classement général. Pogacar toujours en jaune ce soir.
Merci Nicolas Perronnet avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. La 9e étape demain, c'est entre Chinon et Châteauroux. Encore du plat, vous l'avez dit, et beaucoup de chaleur. Au programme, ce qui nous emmène au temps de demain.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Corinne.
Et le soleil va dominer sur le pays demain matin.
Oui, il fera beau à votre réveil, sauf encore sur le pourtour méditerranéen où quelques orages se maintiennent suite à l'instabilité de la nuit en région sud-est et aussi au-dessus de l'Aquitaine jusqu'à la Provence et le long de la frontière belge où le ciel sera nuageux. Au thermomètre, les températures minimales sont comprises entre 12 et 16 degrés ce dimanche matin sur le quart nord-est du pays et entre 16 et 20 degrés partout ailleurs.
Et demain après-midi, les orages se déclenchent dans l'est.
Oui, même si le soleil résiste du centre au nord et au nord-est, le ciel va se voiler côté façade atlantique et du massif central aux Alpes et au Jura, le temps s'assombrit, toujours à cause de cette goutte froide au-dessus de la région PACA. Il devient orageux avec des averses qui seront plus fortes avec un risque de grêle sur l'Auvergne. Côté Pyrénées aussi, le tonnerre gronde et en soirée, les averses orageuses vont se décaler de la Bourgogne au bassin parisien, puis sur le Grand Est. Côté température, les maximales approchent les 30 degrés sur les Hauts-de-France, le Grand Est et le tiers sud du pays. Ailleurs, elle culmine entre 30 et 33 degrés.
Merci Magali Rochereau.